France Inter. Le 7-9. Intervenez.
Au 01 45 24 7000 avec d'abord Alain qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Alain.
Bien, bonjour à toute l'équipe. Je vous écoute assez régulièrement.
Merci.
J'ai eu l'occasion d'entendre des tas de gens, dont aujourd'hui encore M. Juppé. Je voudrais savoir s'il peut nous parler, lui, du contenu du CETA, du TAFTA avant.
C'est-à-dire les traités de libre-échange entre l'Europe et le Canada d'un côté et les États-Unis.
Ensuite, le Canada.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces textes? Et j'ai entendu, je ne me rappelle plus qui, nous dire que il savait pas, il était député, il savait pas ce qu'il y avait dedans.
Ben oui, c'est l'un des reproches qui est fait par les détracteurs de ces traités, c'est d'avoir été négocié dans une certaine opacité ou dans un certain secret. Pour le CETA, c'est pas vrai, dit Bernard Guettac, dont le micro n'est pas ouvert, donc on vous a pas du tout entendu, Bernard.
Ouais,
non, ben j'ai le casque sur les oreilles, donc je peux vous le dire. Alain Juppé.
On sait très bien ce qu'il y a dans ces traités, hein. L'objectif, c'est le libre-échange. Et le libre-échange est une chance pour nos entreprises. On l'a vu d'ailleurs tout au long de l'histoire récente, quand on a négocié un accord de libre-échange avec un pays comme la Corée, nos échanges ont immédiatement augmenté. L'idée, c'est d'abaisser les droits de douane, de simplifier les règles qui empêchent de commercer pour conquérir des marchés. Donc l'idée est bonne, et d'ailleurs j'observe que le président de Wallonie dit qu'il veut un accord, et qu'il ne remet pas en cause le principe même du libre-échange. Alors, qu'est-ce qui va pas? C'est que effectivement tout ceci a été mal négocié, dans une certaine opacité. C'est peut-être pas vrai pour le CETA, mais c'est vrai pour l'autre traité avec les États-Unis, le TIPP ou le TAFTA. Et le mandat qui a été donné à la Commission n'a pas été un mandat clair. Et ça révèle, encore une fois, le dysfonctionnement des institutions européennes. Sur deux points en particulier, c'est ça qui bloque aujourd'hui, la protection de nos intérêts agricoles. Nous sommes arrivés, ça c'était un bon point, à mettre de côté, avec les États-Unis, les industries culturelles, le cinéma. Et ça, la France y tenait beaucoup. Donc, la preuve que quand on veut, on peut. En revanche, nous n'avons pas pris suffisamment de précautions pour garantir nos productions agricoles, et notamment pour avoir une clause de sauvegarde, de façon à ce que nous ne soyons pas envahis par des productions de viande venant de l'extérieur. Là, il y a un point de faiblesse. Le deuxième point de faiblesse, c'est que quand il y a des accords sur le traité, on a mis en place un système de règlement qui repose, en fait, ou qui reposait au départ sur des partenaires privés. Et là, ça ne va pas non plus, parce qu'il faut que les États puissent être dans le jeu et ne se laissent pas imposer telle ou telle décision par des partenaires privés. Voilà les deux points sur lesquels le mandat de négociation n'a pas été clair, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est dans ce blocage. J'espère qu'on arrivera, en apportant des précisions et des améliorations, à le lever, parce que dans le fond des choses, c'est notre intérêt d'avoir cette liberté d'échange.
C'est notre intérêt à tous, Alain Juppé, parce que dans ce type d'accord, il y a forcément dans chaque pays des gagnants et des perdants. Par exemple, pour le CETA, on met en avant la faculté que nous aurions d'exporter nos fromages vers le Canada, mais avec l'inconvénient de recevoir de la viande en provenance du Canada. Donc les éleveurs de viande, il y aura toujours des perdants, et ces perdants-là se feront entendre.
Dans un accord, il y a forcément un équilibre. Nous avons obtenu, ça c'est très important, la protection de ce qu'on appelle chez nous les AOC, les appellations d'origine contrôlée, ou les IPG. C'est quelque chose de très bien. Vous citez le Roquefort, il y en a d'autres. Et sur la viande bovine, je viens de vous le dire, il faut prévoir une clause de sauvegarde qui mette à l'abri nos producteurs, qui sont en grande souffrance aujourd'hui contre la situation actuelle. Ça implique aussi une réforme de la politique agricole commune, sur laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre, mais qui préservera davantage nos agriculteurs face à la volatilité des prix qui aujourd'hui fait qu'ils sont dans une crise très grave.
Donc vous souhaitez qu'on continue de négocier?
Il faut continuer de discuter, et il faut améliorer le traité sur les points que je viens de dire. Il faut surtout remettre de la clarté, parce que les parlements nationaux en particulier n'ont pas été suffisamment tenus au courant des négociations.
Pierre nous appelle de Tours. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Je suis universitaire. Ma question est à Monsieur Juppé. Alors voilà, j'ai deux questions et une remarque très rapide. La première question concerne la reconfiguration, la recomposition de nos sites universitaires. Les milieux bien informés semblent indiquer que d'ici une dizaine d'années, il y aura une trentaine de grands pôles universitaires de façon à assurer la compétition au niveau européen et mondial. Je voulais savoir si ce projet faisait partie de ceux retenus par le candidat Alain Juppé, si nous allons évidemment nous diriger vers cette recomposition drastique de nos sites universitaires, la communauté universitaire et d'établissement étant un moyen d'y parvenir. Première question. Ma seconde question concerne la recherche universitaire qui, dans certaines universités, est extrêmement affaiblie, très mal en point. pour certaines disciplines, nous devons monter des budgets où il nous manque 2000 euros, des sommes absolument négligeables, mais que nous devons récupérer par ailleurs pour valoriser nos colloques, nos conférences et assurer la diffusion de nos recherches. Mais... Alors, toute petite remarque complémentaire, si je peux me permettre.
Très vite.
À quand des chercheurs universitaires, à quand des docteurs d'université dans les services ministériels? Nos interlocuteurs, la plupart du temps, sont des énarques, c'est-à-dire issus des grandes écoles, qui ne sont pas universitaires et qui ne connaissent pas nos problématiques. Et j'ajoute qu'il y a souvent un très grand mépris de la part de ces hauts fonctionnaires vis-à-vis de la recherche qu'ils connaissent mal.
Merci à vous, Alain Juppé.
Je crois qu'on trouve autant de polytechniciens que d'énarques dans les ministères. Signale au passage. Sur la première question
de les grandes écoles.
Sur la question de la première question de Pierre, oui, il faut renforcer un certain nombre de pôles universitaires d'excellence de façon qu'ils aient un rayonnement international, et c'est très exactement ce qui était dans l'esprit du grand emprunt ou du programme des investissements d'avenir que j'ai porté sur les fonds baptismaux avec Michel Rocard. Et c'est en train de se faire, par exemple à Bordeaux, on a constitué l'université de Bordeaux par le rapprochement de trois universités qui existaient auparavant. Je n'ai pas l'obsession du Big is beautiful, hein. Donc c'est pas toujours la solution, mais je pense que dans un certain nombre de cas, il faut effectivement des universités d'excellence, il faudra aller plus loin dans l'autonomie de ces universités, il faudra relancer aussi un nouveau plan campus, parce que les conditions qui sont faites aux étudiants, parlons-en aussi, dans beaucoup d'universités, ne sont pas aux standards européens. Sur le deuxième point, la recherche universitaire, elle mérite, à l'évidence, un soutien supplémentaire, les fonds publics ne sont pas indéfiniment extensibles, il faut aller plus loin dans la recherche partenariale. Le mouvement est pris aujourd'hui. Il y a quelques années, l'idée de collaborer avec des entreprises pour financer des travaux de recherche était un peu tabou. Aujourd'hui, elle s'est imposée dans le cadre des pôles de compétitivité ou dans le cadre du programme des investissements d'avenir que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, dernier point, les doctorants ou les docteurs, oui, ils sont aujourd'hui insuffisamment considérés et il faut effectivement leur donner davantage de possibilités de carrière, y compris dans l'administration. C'est une des propositions que je fais dans le document que je viens de publier sur l'enseignement supérieur et dont je conseille la lecture à Pierre s'il le veut bien.
Autre question, Jean-Philippe qui nous appelle de Dijon, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Cohen, merci pour vos émissions.
Merci.
Bonjour Monsieur Juppé. Donc,
bonjour.
Une question très courte. Si vous êtes élu à la primaire de la droite et du centre, est-ce que vous vous engagez à ne pas mettre dans votre gouvernement des membres de la Sarkozy affairiste, entre parenthèses, conflit d'intérêts patent, double activité, et vous inspirer de Václav Havel et son intégrité en politique, qui a su faire vivre tout cela dans la durée? Merci.
Voilà, je prendrai des ministres compétents, honnêtes et loyaux. J'en prends évidemment l'engagement.
Non, mais vous comprenez la question. Elle est relayée, Hélène Roussel, sur les réseaux sociaux.
C'est un peu différent, mais c'est le même genre de choses. Envisagez-vous de nommer, par exemple, François Bayrou, un centriste, au poste de Premier ministre?
Ça, c'est pas exactement la même question.
D'accord, c'est ça.
C'est l'autre pôle.
Je n'ai pas observé qu'on ait suspecté François Bayrou de malhonnêteté. Écoutez, ça suffit avec François Bayrou. Cette espèce d'obsession anti-Bayrou, ça commence à bien faire. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a créé l'UMP? Et j'ai été son président fondateur pour rassembler les gaullistes, les libéraux et les centristes. Et ça a marché. Malheureusement, ça a explosé en vol en 2012. Hélas, à cause de la dérive trop droitière de la campagne de 2012. Et ils sont partis. Ils ont constitué l'UDI. Eh bien moi, je veux les ramener à nous. Je veux que l'ensemble de ceux qui respectent les valeurs républicaines de la droite et du centre puissent se retrouver parce que nous aurons besoin de ce rassemblement demain.
Pardon, François Bayrou, c'est opposé... à la majorité de droite et bien avant 2012, puisqu'il a,
je vous rappelle qu'en 2008,
qu'il ne voterait pas Nicolas Sarkozy.
Je vous rappelle qu'en 2008, c'est un moment très glorieux pour certains, nous avons soutenu dans les élections municipales à Pau une liste socialiste dissidente qui s'est maintenue au deuxième tour, qui a fait battre François Bayrou et qui a fait élire un maire socialiste. Alors, ne donnons pas de leçons dans ce domaine à qui que ce soit.
Donc, François Bayrou est...
Je n'ai pas approuvé le choix de François Bayrou en 2012. Ce n'était pas mon choix. J'ai voté Nicolas Sarkozy et je ne le regrette pas. Aujourd'hui, il est clairement en faveur de l'alternance. On ne va pas continuer à excommunier les uns et les autres. Quand on veut rassembler, on ne commence pas par se séparer de ceux qui veulent nous rejoindre.
Et vous voulez rassembler, y compris, pour répondre à la question de l'auditeur, y compris des sarkozystes si vous êtes désigné.
Bien entendu, je suis LR, je vous le rappelle au passage, et donc c'est ma formation politique, mais je veux aussi rassembler des déçus du hollandisme. Certains ont été déçus du sarkozysme en 2012. Ils ont voté Hollande et aujourd'hui ils nous reviennent. Je ne vais pas leur fermer la porte.
Vos adversaires qui vous ciblent à chaque intervention, et ce qui est normal puisque vous êtes le favori dans cette primaire, Alain Juppé, vos adversaires vous soupçonnent de vouloir être un président conservateur, qui ne change pas grand-chose. François Fillon a fait cette remarque dimanche sur le choc fiscal que vous proposez serait inférieur à celui opéré par François Hollande durant le quinquennat. Et puis voilà,
pas dans le même sens. C'est absolument ridicule, voyons. Le choc fiscal, on dit vraiment n'importe quoi par les temps qui courent.
Le choc fiscal
de Hollande, ça a été une augmentation massive des impôts. C'est ça qui reste encore aujourd'hui. On n'arrive pas à compenser ce choc fiscal. Moi, je propose de baisser les impôts. Donc, ça n'a strictement rien à voir, naturellement.
Et
écoutez, selon les jours, on m'accuse d'être hyperlibéral. Quand j'ai proposé mon programme économique, on a dit c'est de l'hyperlibéralisme. Après, quand je parle de ma conception d'un État fort qui se donne les moyens de protéger les Français et de faire respecter la loi, on dit que finalement, je suis un homme de droite. Bon, voilà. C'est que je dérange beaucoup, finalement, parce que j'ai des positions assez équilibrées et assez efficaces.
Vous dérangerez vraiment si vous êtes, si vous parvenez à l'Élysée. Voilà Jean d'Ormesson qui vous connaît, dit-il, depuis longtemps et qui disait de vous hier à la télévision suisse « Alain Juppé sera élu, mais il ne fera rien, ce sera un Hollande de gauche. »
Il a dit Hollande de gauche. C'est pour ça que j'ai pas très bien compris. Mais enfin, j'ai la plus grande admiration pour Jean d'Ormesson. C'est un écrivain dont j'aime bien les ouvrages. Il vient de m'envoyer d'ailleurs avec une très gentille dédicace son dernier bouquin. Et donc, je lui garde toute mon amitié et tout mon respect.
Mais tout votre respect comme écrivain, moins comme chroniqueur politique.
C'est ce qu'il est. D'abord, écrivain, non?
Oui, il a un grand écrivain. Il est un observateur de la vie politique depuis longtemps aussi. Alain Juppé, ça ne vous a pas échappé.